Depuis plusieurs années maintenant, l'axe de la résistance contre l'impérialisme et le néocolonialisme s'étend à travers le monde. De plus en plus de pays se rallient afin de faire un front commun dans cette lutte pour les indépendances et le souverainisme. En marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, s'est entretenu à New York avec son homologue de la République islamique d'Iran, son Excellence le Dr. Hossein Amir Abdollahian. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont évoqué plusieurs questions, en l'occurrence la dynamisation de la coopération bilatérale à travers la mise en œuvre diligente des recommandations issues de la première commission mixte Mali-Iran tenue le 23 août 2022 à Bamako, ainsi que d'autres questions internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré le soutien et l'accompagnement de son pays en faveur des efforts des autorités maliennes visant à assurer la pleine exercice donc de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population du Mali. L'Iran et la Mauritanie développent également les relations bilatérales. Le ministre iranien des Affaires étrangères, donc Hossein Amir Abdollahian, a souligné que la République islamique d'Iran n'avait aucune restriction sur le développement de la coopération avec la Mauritanie. Toujours lors d'une rencontre en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre iranien des Affaires étrangères et le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Marzouk, ont discuté des relations bilatérales et des questions internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son espoir que les relations entre les deux pays connaîtront un développement et une croissance constante à la lumière de la poursuite des consultations et du suivi entre les deux parties. Amir Abdollahian a souligné que la République islamique d'Iran n'a aucune restriction sur le développement global de la coopération avec la Mauritanie. De son côté, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a salué l'idée d'élargir les relations stratégiques avec l'Iran et a mis l'accent sur le développement des relations dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, de la pêche et des énergies renouvelables. Les deux parties ont également discuté et échangé des vues donc sur les visites mutuelles de hauts responsables des deux pays. Mohamed Salem Ould Marzouk, tout en condamnant les crimes du régime sioniste en Palestine, a soutenu la poursuite de la coopération des pays islamiques, dont l'Iran, notamment sur la question de la Palestine. Depuis le début du mandat du 13e gouvernement de la République islamique d'Iran, les liens entre l'Iran et l'Afrique ne cessent de s'amplifier. L'Afrique se rallie à des partenaires fiables et cherche par-dessus tout des partenariats gagnant-gagnant pour sortir et briser l'hégémonie occidentale qui a empêché l'Afrique de se développer comme il se doit depuis le début de leur indépendance. Les partenariats se forment dans le respect mutuel et c'est ce qui importe aussi bien pour l'Afrique que pour l'Iran. La Guinée ne suivra plus les diktats de la communauté internationale. Invité d'un média français, Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement de la transition guinéenne, a de nouveau justifié les raisons des 36 mois de la transition guinéenne. Pour lui, tous les experts sont unanimes que l'unique raison des crises en Guinée depuis 30 ans est exactement l'absence d'un fichier d'état civil fiable. Plus loin, il rappellera que la transition n'est pas une question de date, mais de contenu. Nous avons posé des thématiques dans le chronogramme. Qu'est-ce qui cause les crises en Guinée depuis 30 ans ? C'est l'absence d'un fichier électoral consensuel. Cela est adossé à l'inexistence d'un fichier de l'état civil. Sans état civil, il est difficile d'avoir un fichier électoral et nous avons prévu d'élaborer un fichier d'état civil duquel on va tirer le fichier électoral. Tous les experts conviennent qu'il faut 24 mois pour le faire et nous n'avons pas besoin d'un tiers pour élaborer le fichier électoral. Nous voulons que nos partenaires nous expliquent s'ils ont une autre manière de produire un fichier électoral en moins de 24 heures. Nous avons toujours soutenu que la transition, ce n'est pas des dates, c'est un contenu. S'ils ont des experts capables de produire un état civil et un fichier électoral en moins de 24 mois, nous sommes acheteurs de la solution. Et durant les 24 mois, nous allons aussi faire le toilettage des textes juridiques et des institutions. À l'issue des 24 mois, les élections vont se dérouler de la base au sommet. ferme, Gawal dira qu'ils n'accepteront plus jamais de répéter le diktat de la communauté internationale et de la CEDEAO. Je rappelle qu'en 2010, la communauté internationale a bousculé la Guinée pour aller rapidement à un fichier électoral qui a généré des crises qui ont maintenu la Guinée en situation de crise pendant 12 ans. Nous n'allons plus jamais répéter la même chose sous le diktat de qui que ce soit. La communauté internationale et la CEDEAO ne viendront plus nous dicter des conduites à tenir. Pour le moment, les Guinéens doivent rester soudés à leur gouvernement pour faire face aux conséquences des différentes positions de ces autorités et des responsables de la CEDEAO. Depuis le ralliement de la Guinée au Mali, Conakry continue sur sa lancée pour emboîter le pas à Bamako et emprunter la voie du souverainisme. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé ce mardi 27 septembre au palais de la présidence de la République avec le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite de travail en Côte d'Ivoire. Gérald Darmanin s'est exprimé après des échanges avec le président ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. J'ai évoqué avec lui la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali. Je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour les soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés. À l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la paix publique, a-t-il déclaré. Depuis le 10 juillet dernier, 46 mercenaires sont effectivement détenus au Mali. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé à libérer les 46 mercenaires détenus à Bamako, tout en invitant les autorités maliennes à concentrer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges entre Gérald Darmanin et Ouattara ont aussi porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines sécuritaires et de la lutte contre le terrorisme. En retour, le ministre malien des Affaires étrangères a appelé la Côte d'Ivoire à cesser d'être une base arrière, donc pour déstabiliser le Mali. Après la sortie musclée du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune des Nations Unies, c'est au tour du chef de la diplomatie malienne de mettre en garde la Côte d'Ivoire. Dans une interview, le ministre Abdoulaye Diop est revenu sur les tensions actuelles entre Abidjan et Bamako, tout en invitant le régime de Ouattara à ne plus servir de base arrière pour déstabiliser son pays. Sur l'épineuse affaire des 46 soldats, le membre du gouvernement a assuré que son pays s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique guidée par le dialogue. Ce qui a conduit à la libération de 3 soldats du contingent ivoirien, explique-t-il. Pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier indifférent. Le Mali donc est engagé avec la CEDEAO dans le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu'elle a été emmenée à la CEDEAO nous semble être biaisée et les décisions qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s'est transporté à New York seront appréciées par le gouvernement du Mali qui s'exprimera officiellement sur cette question, a déclaré Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien. En ce qui concerne le sommet de la CEDEAO à New York, nous pensons que c'était pratiquement un tribunal contre le Mali, parce que le Mali n'a pas été entendu pendant cette discussion. On ne sait pas sur quelle base ces décisions ont été prises. Et toutes les décisions qui ont été prises sont justes en faveur de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre, il faut que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser son pays, le Mali déjà en proie à la crise sécuritaire. La France utilise tous les moyens pour tenter de déstabiliser le Mali. Mais pourquoi donc la France et l'ONU devraient donner leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la libération des mercenaires ivoiriens sans condition alors que la Côte d'Ivoire abrite, et ce, sous le silence de la communauté internationale, des reprises de justice. Jusque quand la France et l'ONU vont se ridiculiser de la sorte aux yeux de la communauté internationale, les peuples du monde ne trouvent pas l'attitude de la France et de l'ONU ridicule ?
L'Afrique a exporté pour 660 millions de dollars de produits agricoles vers la Chine entre janvier et août. Sur les 8 premiers mois de 2022, la Chine a absorbé via le port de Shanghai pour 4,72 milliards de yuans, soit 660 millions de dollars de produits agricoles en provenance du continent africain. Selon des données des autorités chinoises, les principaux articles concernés sont entre autres les agrumes, le thé, le café, le coton, ainsi que d'autres produits horticoles comme l'avocat. Parmi les pays exportant le plus vers la Chine figurent le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Dans la filière arc-en-ciel, la filière agrumes a été l'une des pionnières du continent en signant notamment son premier protocole avec Pékin en 2014. Pour rappel, le continent fournit environ 3% des importations totales de produits alimentaires de la Chine. Les travaux du port tanzanien de Bagamoyo débuteront en 2023. Les travaux du nouveau port tanzanien de Bagamoyo reprendront en 2023, a annoncé le directeur général de l'autorité portuaire tanzanienne. Le nouveau port de Bagamoyo devrait relayer le port de Dar es Salaam, dont le trafic est en progression continue. Plusieurs multinationales ont manifesté leur intérêt pour le développement et l'exploitation de ce projet portuaire. Le chantier qui a débuté en 2015 a mobilisé 10 milliards de dollars et c'est le chinois China Merchants Holding International qui a gagné le marché de la construction en 2013. Mais les travaux avaient été arrêtés sur ordre de l'ex-président tanzanien, soutenant que l'accord n'avantagerait pas le gouvernement tanzanien. Ils veulent que nous leur donnions une garantie de 33 ans et un bail de 99 ans, avait déploré l'ex-chef d'État. Ouavi lance au Cameroun la 7e édition de Seeds for Future dédiée au transfert de compétences vers les jeunes. La filiale camerounaise du géant chinois des télécoms et des TIC Ouavi a été officiellement lancée le 16 septembre 2022 à Yaoundé, la capitale du pays. La 7e édition du programme Seeds for the Future visant le transfert de compétences aux jeunes camerounais. Pendant 10 jours, 20 étudiants issus d'une sélection rigoureuse organisée au sein des 8 grandes écoles et universités partenaires de la Ouavi ICT Academy, autre programme d'entreprise visant cette fois la certification des étudiants et enseignants en TIC, verront leurs capacités renforcées à travers des entraînements. Chez Ouavi, nous pensons que la prise de conscience collective et les efforts concertés de tous les acteurs d'une industrie combleront l'écart entre l'offre de talents et la demande de professionnels de l'informatique. Par conséquent, Ouavi Cameroun s'engage une fois de plus à continuer à travailler main dans la main avec le gouvernement camerounais et les écoles partenaires pour réduire significativement cet écart, a déclaré Thomas Jong, PDG de Ouavi Cameroun, lors de son discours. En Ouganda, la Chine formera 500 enseignants pour renforcer l'apprentissage du chinois dans les écoles secondaires. Les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Ouganda sont de plus en plus fréquentes. Pour booster le partenariat entre les deux pays et aider les jeunes Ougandais à profiter de cette coopération, le pays d'Afrique de l'Est a initié des cours de chinois dans les écoles. La Chine va former 500 professeurs ougandais à l'enseignement de la langue chinoise pour renforcer l'apprentissage de la langue dans les écoles ougandaises. Les enseignants qui seront formés par les instructeurs chinois soutiendront l'introduction des cours de chinois au niveau du deuxième palier de l'enseignement secondaire. Cette opération, évoquée depuis quelque temps, entrera bientôt en vigueur. Le programme d'enseignement attendait l'approbation finale du conseil d'administration du Centre national de développement des programmes secondaires. Le comité directeur académique a déjà approuvé le syllabus, d'après Henri Adramunguni, chargé des programmes d'enseignement des langues étrangères au NCDC, un établissement géré par le gouvernement.